I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
CJMD 96.9, les seuls à vous parler en journée, les week-ends. Au 96.9, voici Vent fraîcheur.
Allô, allô, la belle gang! Comment allez-vous en ce dimanche, 29 octobre 2023. Je sais pas, ça donne bien, on a Alexandre Aubry avec nous ce matin. Je sais pas ce qui se passe dans les as ou dans la pleine lune, dans ces affaires-là. Mais matin, c'est le même. Hein? C'est ça. En tout cas, on verra ce que ça va donner, mais j'ai bien, bien hâte de m'entretenir avec lui ce matin. Il va nous parler des différences entre l'ascendant et les signes, ou plutôt entre les signes et l'ascendant. Alors, je pense que les signes viennent avant l'ascendant. Mais c'est pas moi l'expert, c'est Alexandre Aubry qui va être avec nous tantôt pour nous parler de ça. On va également parler de l'importance de la stérilisation des petits animaux à quatre pattes, en particulier les chats. On va également explorer le style analytique aujourd'hui avec moi-même. Et je reçois un nouvel entrepreneur. Ça va être la première fois qu'il va venir à l'émission Vente fraîcheur. Il s'agit de Stéphane, je perds son nom. C'est quoi cette affaire-là, hein? Stéphane Boutin! Oui, il sera pas fier de moi s'il m'écoute à matin. Hein? Il est fondateur, auto-entrepreneur, il est un agent d'aide aux entreprises. Il va venir nous parler de sa vision différente de faire des affaires. Donc, restez avec nous, c'est très, très intéressant. Je suis allé à quelques-unes de ses activités pour m'approprier un petit peu ce qui se passe dans ces choses. J'ai encore un paquet de questions pour lui, mais on va juste commencer avec lui à mettre la table. Et on verra par après si ça vous tente qu'il revienne à l'émission ou pas. Hein? Parce que vous savez, c'est vous autres, les boss, c'est pas moi. Fait que c'est une main. Je voulais vous dire, il y a peut-être une autre raison aussi pour laquelle ça brasse peut-être dans mon univers à moi, gang. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de juin dernier, on avait reçu Pierre et Guylaine qui étaient venus nous parler des constellations familiales. Et si vous vous en rappelez pas, si vous avez le goût de réécouter ce qu'on s'était discuté parce qu'on expliquait ça de long en large, bien, les podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes et c'était l'émission du 11 juin 2023. Donc, vous avez une petite recherche Google, par exemple, vous cherchez « Podcast Vente fraîcheur, constellation familiale ». C'est le premier qui arrive en haut. Je l'ai testé avant de vous en parler et c'est vraiment ça. Donc, vous allez pouvoir réécouter. Et moi, suite à ça, j'ai décidé d'aller expérimenter, d'être une représentante aux constellations familiales. Et hier, j'ai fait ma troisième expérimentation, donc ma troisième journée de constellations familiales. Et en septembre dernier, je pense que je ne vous l'avais pas dit encore, les auditeurs, mais j'ai moi-même été expérimentée une séance en privé. Donc, j'ai été une constellante, comme on dit. J'ai posé ma constellation en privé avec Pierre et Guylaine. Pourquoi je l'ai faite en privé? C'est parce que ça ne me tentait pas d'attendre qu'il y ait de la place. Ça allait juste au mois de novembre. Donc, si ça vous intéresse, vous autres aussi, il reste la place autant comme constellant que comme représentant au mois de novembre. Je ne sais pas encore si je serai là au mois de novembre. J'y réfléchis. Mais ça peut être des choses qui font en sorte que ça bouge dans ton univers. Même si tu y vas seulement qu'à titre de représentant, c'est incroyable les prises de conscience que les gens font pendant cette journée-là. Autant l'un que l'autre. Fait que moi, j'avais juste le goût de vous en reparler. J'avais dit que je vous tiendrais au courant. Je n'ai pas le temps nécessairement d'aller en profondeur. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler, je vais vous répondre. Vous pouvez m'écrire aussi. Mais les meilleurs pour répondre aux questions pour les constellations familiales dans le coin de Lévis, c'est vraiment eux les leaders dans le domaine. Il s'agit vraiment de Pierre et de Guylaine. Vous les cherchez sur les réseaux sociaux et vous allez facilement les trouver. Donc, ceci étant dit, j'ai un petit concours aussi aujourd'hui pour vous autres, ma belle gang. Donc, à vos textos. Vous textez au 418-903-5969, mais juste avant, écoutez-moi bien, parce que c'est samedi le 4 novembre à 20h à la microbrasserie La Baleine endiablée que Émile Bilodeau va se produire. Émile Bilodeau, lui, il trouve le moyen de conquérir les foules sans relâche depuis bientôt 10 ans. C'est avec un énorme bonheur qu'il fera vivre sur scène les perles folk-rock de son nouvel album qui s'intitule « Au bar des espoirs ». Ainsi que chez d'autres plus grands succès, bien entendu. Entouré de ses habituels musiciens, le lucide chansonnier présente un spectacle rempli d'humour, de prise de conscience sociale et de mélodies accrocheuses. Émile Bilodeau, ça se passe à la microbrasserie La Baleine endiablée à Rivière-Ouelle. Il y a de la bonne bouffe, il y a de la bière brassée sur place en plus. Tu as une auberge conviviale à même la microbrasserie, là, tout dans le même coin. Là. Donc, si tu veux passer une soirée plaisante avec une ambiance décontractée garantie pour tes billets, tu te rends sur le pointdevente.com. Pour réserver ta nuitée, tu te rends au baleineendiablée.com. Autrement, ben moi, je te donne la chance de gagner une de mes deux paires de billets aujourd'hui pour le spectacle de Émile Bilodeau qui a lieu le 4 novembre à la Baleine endiablée. Donc, tu as juste à me texter le nom complet à toi, ainsi que le mot « baleine » au 418-903-5969 et peut-être que tu seras l'un des gagnants de la paire de billets. J'en ai deux pour vous autres aujourd'hui. C'est le 4 novembre, donc c'est la semaine prochaine, ma belle gang. Vous me textez « right now », vous pouvez le faire tout le temps de l'émission. Je fais tirer deux paires de billets, comme je viens de vous le dire. À l'instant même, on passe en direct avec notre astrologue favori ici à l'émission Vent de fraîcheur. Mais oui, on a des préférés comme ça. Que voulez-vous? Alexandre Aubry, bon matin.
Allô, Manon, comment vas-tu?
Moi, je vais très bien. Je ne sais pas ce qui se passe dans les as. Moi, d'après moi, il y aura bien des affaires à discuter. Mais c'était pas tout à fait ça le sujet de notre chronique d'aujourd'hui, hein, Alexandre?
Oui.
Oui. Fait qu'on n'en parlera pas finalement, si tu me permets. J'ai changé d'avis. J'aime mieux qu'on aille dans notre sujet parce qu'on l'a annoncé. Puis en même temps, ben, tu n'as plus besoin de présentation, j'ai l'impression. Hein? Alexandre Aubry, tout le monde le connaît maintenant. Quand on a des questions en regard de tout ce qui concerne les astres, on s'adresse à Alexandre Aubry, on achète ses livres, on écoute ses choses sur les réseaux sociaux. On l'aime, Alexandre Aubry. Donc, tout le monde nous écoute ce matin, Alexandre. Aucune pression. Mais ensemble, un matin, on va parler. Tu vas nous mettre la table, j'ai l'impression. Tu vas nous expliquer un peu les bases de c'est quoi un signe, c'est quoi un ascendant, puis à quoi ça nous sert un peu dans notre vie.
Bien, effectivement, tout d'abord, les 12 signes du zodiaque sont la base même de l'astrologie, évidemment. Alors, on va comprendre tout simplement ces 12 signes-là rapidement, mais on entend toujours aussi parler qu'il y a l'ascendant, il y a une foule autre de symboles qui sont tout aussi importants, mais l'ascendant, on dirait que les gens s'y arrêtent beaucoup, s'y arrêtent énormément. Alors, je voulais un petit peu aujourd'hui faire démystifier tout ça, puis d'expliquer la grande différence, parce qu'effectivement, l'ascendant occupe une place assez importante et il y a surtout une fausse croyance qui est extrêmement répandue, qui nous dit que l'ascendant s'avère à prendre la place avant, l'ascendant s'avère à prendre la place du signe lorsqu'on avance en âge et qui prend toujours de plus en plus de place.
Et ça, c'est faux.
C'est pas tout à fait vrai.
Ah, OK, il y a des nuances.
Il faut bien comprendre que ce sont deux éléments tout simplement distincts. Ce ne sont pas les mêmes. Alors, c'est donc sous cet angle qu'il faut comprendre la chose. Alors, on ne devient pas notre ascendant en vieillissant. On garde toujours notre signe solaire, qui est celui qui correspond tout simplement à notre cœur. Parce que d'ailleurs, le signe solaire, dans le fond, le soleil, qu'est-ce que c'est? C'est le soleil est tout simplement la position dans le ciel du soleil. Dans notre, en fait, dans le, je donne un exemple, toi Manon, tu es vierge. Alors au moment de ta naissance, le soleil était dans le signe de la vierge, tout simplement. Alors c'est pour ça qu'on dit que tu es vierge. Alors ça fait tout son sens de pouvoir s'approprier, s'attribuer ce signe, tout simplement. Alors donc, c'est sous cet angle-là qu'il faut peut-être mieux se comprendre. Maintenant, l'ascendant, qu'est-ce que ça représente? C'est plutôt la vie qui nous est proposée et non pas qui nous sommes. Quand je parle avec mes étudiants, je leur dis généralement quelques questions à se poser d'une certaine façon lorsqu'on regarde une carte du ciel. Qui suis-je? Et ça, ben, c'est le soleil. Où vais-je? Ça, c'est l'ascendant. Tu me suis là-dessus, Manon?
Oui. Donc, qui suis-je? C'est la Vierge. L'ascendant, dans mon cas, c'est le taureau. Parce que tu me l'as déjà. Tu as déjà tout fait ce travail-là pour moi dans le passé, donc je le sais. Je ne sais pas comment faire pour le savoir. Tu veux-tu nous le dire comment on fait pour le savoir?
Oui, écoute, okay. Tout simplement, c'est en fonction de l'heure de naissance. Alors, il s'agit d'avoir les coordonnées de naissance, date, heure et lieu de naissance. Et là, ça permet de pouvoir placer l'horizon est, en quelque sorte. Et c'est là que pointe l'ascendant, en fait. Donc, l'horizon est va aller pointer un des 12 signes selon notre heure de naissance, mais aussi selon la date, parce que, évidemment, ce n'est pas toujours le même signe qui va se retrouver à l'horizon est selon la date à la même heure. En tout cas, c'est un peu la mathématique de tout ça, et également en fonction du lieu de naissance. Alors, tout ça, vraiment, est extrêmement important pour connaître notre ascendant. Ce sont donc toutes ces coordonnées qui sont essentielles pour savoir où pointe l'horizon est au moment de la naissance. Je te donne juste un exemple aussi flagrant pour ce qui est du lieu de naissance. Quelqu'un qui naît à Gaspé à 6 heures du matin, le jour de l'équinoxe du printemps, par exemple. Tu sais, normalement, l'équinoxe, le jour et la nuit sont parfaitement égaux. Alors, à 6 heures du matin, ça devrait correspondre au lever du soleil. Mais comme Gaspé se trouve à l'extrémité est du fuseau horaire, ça veut dire que le soleil est déjà levé à 6 heures du matin à Gaspé et à Toronto, qui lui est à l'extrémité ouest du même fuseau horaire, le soleil n'est pas levé à cette heure-là. Alors, l'horizon est n'est pas du tout à la même place. Mais pourtant, on aurait finalement quelqu'un qui naîtrait le même jour, à la même heure, mais un à Gaspé et un à Toronto, ben on a une carte du ciel très différente. Tu me suis là-dessus?
Hey, c'est tellement clair, Alexandre, ce que tu nous dis, là.
Alors, j'adore. Voilà. Et c'est ça, donc, l'ascendant, définitivement, apporte une, comme je le disais, c'est le « où vais-je ». Alors, juste pour faire, dans le fond, un petit tour rapide de nos dossiers, tu sais, je l'ai déjà fait auparavant dans l'émission, j'espère que les gens vont s'en rappeler, ou alors qu'ils aient écouté les émissions d'auparavant, mais une chose est sûre, un bélier est quelqu'un, fondamentalement, qui naît bélier. Quelqu'un qui est né avec le soleil du côté du bélier, il est né pour être dans l'action. Son cœur va être heureux, lui, de bouger, que ce soit physiquement, spirituellement, psychiquement, intellectuellement, l'important est d'être dans l'action. Tu sais, c'est un peu les hyperactifs du zodiaque, normalement un bélier. Parce qu'un bélier qui est passif va être malheureux. Par contre, si on est avec l'ascendant bélier, là, ça n'a aucun rapport avec si on est bien ou non dans notre peau, mais la vie qui nous est proposée est une vie d'action. S'il y a de bonnes chances qu'on soit quelqu'un qui soit potentiellement sportif, par exemple, quelqu'un qui est toujours rien que sur une patte, comme on dit, pour ne pas utiliser l'autre mot. C'est donc quelqu'un qui est toujours en dynamique et qui ne peut pas s'arrêter. Il y a d'autres symboles qui viennent peut-être nuancer un peu cette question de où vais-je, mais à la base, c'est un peu comme ça. Alors, c'est ça le principe. Alors donc, quelqu'un qui naît taureau, lui, il est né pour être dans sa zone de confort en général. Donc, avec un ascendant taureau, ça ne veut pas dire qu'on va toujours être dans une zone de confort, mais ça veut dire qu'on va dégager cette réalité-là où on devrait évoluer dans une certaine réalité où, où ce n'est pas nécessairement inconfortable. Peu importe ce que notre cœur a envie. Tu sais, je donne un exemple, ça peut être très contradictoire, ce qui est le qui suis-je et le où vais-je. Normalement, avec l'ascendant taureau, on devrait aspirer, le chemin qui nous est proposé, ce qui est ton cas, devrait nous dire il faut évoluer dans une position où on ne manque de rien. Il faut aller chercher constamment cette sécurité matérielle. Mais ton cœur n'est pas nécessairement dans cet objectif-là. Lui, il n'a pas besoin d'être dans une sécurité matérielle. Mais la vie te dit, va chercher une sécurité matérielle. Elle te pousse à aller dans cette direction-là en général. Mmh. Et le Gémeaux, ben là, c'est plutôt le concept du communicateur. La personne qui est née Gémeaux, donc le soleil en Gémeaux, a besoin d'échanger, va se sentir heureux lorsqu'il est entouré, lorsqu'il fait preuve de curiosité. Mais à l'ascendant, que l'on soit ou non curieux, il est impératif de tout simplement être cet individu qui va justement être toujours en contact avec plein de gens. Même s'il est peut-être un signe d'eau qui est peut-être potentiellement plus réservé, par exemple, ben là, il est toujours en contact avec plein de monde. C'est un, il va, t'sais, une carrière de communicateur, par exemple, ça pourrait être ce phénomène-là, alors qu'on n'a pas envie nécessairement d'être en avant-plan tout le temps, pouvoir s'exprimer constamment. Okay. Chez les cancers, mais ça, c'est assez flagrant en général. Normalement, naître cancer veut dire naître pour aimer. Donc, on a besoin, le cœur est impérativement dans une position qui se doit d'avoir des gens qu'il aime autour de lui, que ce soit sa famille, que ce soit l'amoureux, que ce soit même des collègues. C'est important, quelqu'un qui naît cancer et n'est jamais indifférent à qui que ce soit. C'est véritablement sur cet angle-là qu'on va vraiment comprendre la nature profonde de quelqu'un qui est né cancer. Il est là pour tout simplement aimer dans la vie. Mais avec l'ascendant, on est dans une autre dynamique, c'est que c'est comme si la vie qui nous est proposée, tu dois aller, aimer les autres, mais dans le fond, souvent ça donne des gens qui sont de nature très, très familiale. Du moins, ils sont entourés de gens qui doivent protéger comme si c'était une famille. Ça se peut qu'on soit, par exemple, né dans une famille nombreuse quand on a un ascendant cancer. Ça arrive assez souvent. Ou alors d'être toujours celui qui est le grand protecteur de tout ce beau monde, de s'arranger que tout le monde a un toit sur la tête. Bref, tu sais, c'est cette responsabilité-là qui apparaît.
Ceux qui sont sur Facebook avec nous, Alexandre, oui. Ceux qui sont sur Facebook avec nous, est-ce que ça vous parle? Écrivez-le nous sous la conversation. Moi, je suis curieuse de voir si ça vous parle. Je m'excuse, Alexandre, continue.
Oui, ça va. Alors, pour ce qui est du signe du lion, on a ici quelqu'un qui est né pour ne pas être un parmi tant d'autres. Le cœur du lion, là, quelqu'un qui est né justement à la fin juillet, au mois d'août, ben il faut qu'il apprenne à se démarquer dans la vie pour se sentir bien. Là. Il doit être le meilleur dans quelque chose. Mais à l'ascendant, là, ça devient vraiment problématique parce que si on n'est pas lion, la vie nous dit « va te démarquer, va te placer au bat », comme on dit. Tu vas être cette personne à l'avant-plan qui va prendre une place de choix. Mais que si tu n'y es pas confortable, ben tant pis pour toi, d'une certaine façon. Il faut apprendre à gérer cette réalité. Avec la Vierge, comme toi, née pour travailler fondamentalement, ben, avec un ascendant Vierge, ben, on a quelqu'un qui va inévitablement être assez travaillant. Dans le fond, c'est qu'on va reconnaître cette personne comme une professionnelle, finalement. Même s'il s'agit de quelqu'un qui fait la fête à tous les soirs, par exemple, on va avoir l'impression qu'il s'agit d'une personne professionnelle. Tu me suis là-dessus, c'est assez particulier comme distinction à faire. Chez la Balance, ça, c'est vraiment assez particulier. Premièrement, ce sont des gens qui sont nés pour vivre dans l'harmonie, dans la position la plus, le sens de la justice fait partie de la personne, tout doit être un peu plus équilibré le plus possible. Hein? Tu sais, c'est un concept balance, évidemment. Oui. Alors, c'est donc l'idée d'être en harmonie. Maintenant, quand on dégage l'ascendant balance, inévitablement, ça fait de nous une forme de justicier, d'un artiste, de quelqu'un qui semble parfait. souvent des gens qui sont d'une beauté assez exceptionnelle. C'est des gens qui se mêlent très facilement à la dynamique. Dans le sens où, je veux dire, lorsqu'il s'agit d'une soirée party cocktail, elles ont la robe à paillettes, mais quand il s'agit d'aller bûcher du bois ben, on a quelqu'un qui a tout de même la tenue vestimentaire appropriée. Alors, c'est donc, on dégage vraiment cette harmonie avec l'univers qui nous entoure. Donc, on a une capacité de bien s'adapter, de bien se placer dans cette énergie-là. Avec le monde du scorpion maintenant, on va chercher la dimension où il faut apprendre à faire face à l'adversité. Alors, lorsque l'on est scorpion, moi, je m'amuse toujours à dire, quand on est en conférence, eux autres, ils cherchent le trouble.
Oui, c'est des picosseux, hein?
En fait, ils sont nés dans une période de l'année où la nature abdique, hein, elle nous fait le message très clair qu'on n'échappera pas à l'hiver. Alors donc, ça va de soi que l'individu est conçu pour surmonter des obstacles, faire face à des défis. Alors, s'il est dans une existence morne et sans option de la sorte, ben, le scorpion, il est malheureux au fond de lui. Par contre, quand on est avec un ascendant scorpion, ça ne veut pas dire qu'on aime ça, le trouble, hein? Mais par contre, la vie nous donne des beaux challenges, de grands défis. Ooh. Ça veut dire qu'on va devoir évoluer dans une existence qui nous amène à être justement à relever certains défis. Écoute, j'aime bien donner l'exemple souvent, puis j'aurais dû le dire au début. C'est comme si on est... L'ascendant, c'est un peu plus comme notre voiture, hein, notre véhicule. Quand je disais, c'est où je m'en vais, l'ascendant, où vais-je, dans quelle direction qui m'est proposée. Et quand on est avec un ascendant scorpion, c'est comme si on essaie avec un camion de pompier. Tu sais, le bon Dieu nous a donné le camion de pompier, c'est certainement pas pour le laisser stationner dans la cour, hein. C'est pour aller éteindre des feux. Alors, c'est un peu cette dynamique-là, alors qu'on soit conçu ou non avec notre cœur pour éteindre des feux, ben, il faut le faire quand même. Alors, c'est un peu ça, naître ascendant scorpion.
Je crois qu'il en reste un.
Sagittaire, Capricorne.
Non, il en reste plus que ça. Oui.
Poisson. Je vais le faire plus rapide.
C'est correct.
Pour ce qui est des Sagittaires, écoute, ça, c'est assez particulier. Premièrement, c'est un signe, les gens qui sont nés Sagittaires sont nés pour s'amuser dans la vie. C'est vraiment une période où la vie nous dit, écoute, après, dans le fond, après les drames, c'est le temps de tu sais, on a réglé les problèmes, c'est le temps de célébrer, c'est le temps de fêter, tu sais, après le monde du scorpion. Tu sais, dans le fond, c'est une période fin novembre et début décembre, et une grande partie du mois de décembre, ça correspond souvent à la première neige. Que font tous les enfants de ce monde lorsqu'ils l'aperçoivent? Yahoo! Ils vont s'amuser. Alors donc, Sagittaire est un signe qui est fondamentalement conçu pour avoir du plaisir dans la vie. Mais à l'ascendant, ça veut dire que l'on dégage cette énergie de plaisir, de joie de vivre, de passionner. On l'est pas nécessairement, mais c'est cette réalité qui nous est proposée. On se déplace à ce moment-là avec j'avais envie de dire, le camion du clown, là. Tu comprends? Celui qui va aller faire les fêtes d'enfants, tu sais, que l'on aime ça ou pas, on doit faire la fête. On doit dégager un sourire, inévitablement, ou du moins d'être quelqu'un d'assez passionné. Alors, voici la grande différence principale entre le signe et l'ascendant en ce moment-là.
C'est très intéressant.
Merci.
Oui.
Pour ce qui est du Capricorne, on s'en va avec quelqu'un qui est né pour être organisé, structuré. Alors, inévitablement, l'individu, lui, semble par moment, pour être bien dans sa peau, quelqu'un d'assez posé, quelqu'un d'assez, c'est ça, méthodique, en quelque sorte. T'sais, c'est le premier signe de l'hiver, et pour traverser l'hiver, ben, je te donne un exemple, si tu as 100 bûches, le Capricorne fait un calcul rapide, ça m'en fait 3 par jour. Alors, voilà quelqu'un d'organisé, structuré. Mais à l'ascendant, c'est juste une apparence, tu comprends? On te donne des outils, on te donne le véhicule conçu pour traverser l'hiver, mais peut-être que tu n'es absolument pas capable de le gérer, cette organisation, cette structure. En fait, c'est un peu un symbolisme de responsabilité. Alors, tu as l'air quelqu'un de responsable. Alors, ça peut être un fardeau pour certaines personnes que de porter l'ascendant Capricorne. Maintenant, avec le Verseau, on est dans le fond au milieu de l'hiver. Le signe, lui, est donc conçu pour être heureux lorsqu'il peut être réuni, parce que la seule façon de traverser l'hiver, mieux vaut être en groupe, tous ensemble, fonder une cité. On traverse l'hiver. Il faut être très perspicace aussi, un peu comme l'Esquimau qui a inventé l'igloo, par exemple. Absolument rien, il a réussi à se construire un abri qui lui a permis de survivre à l'hiver. Alors, il faut être très intelligent. Les Verseaux, ce sont des gens. Mais d'ailleurs, je m'amuse en conférence à dire, les Verseaux, ils savent tout. Et là, tout le monde rit parce qu'ils les reconnaissent.
C'est monsieur, je sais tout, madame, je sais tout. Je ne veux pas faire de favoritisme.
Oui, et à l'ascendant, un ascendant Verseau, donc, inspire inévitablement quelqu'un qui a cette capacité, dans le fond, d'être, de un peu de tout savoir, d'être un bon leader, d'être quelqu'un de très, très altruiste. Tu comprends, quelqu'un qui est prêt à prendre en charge une société, par exemple. Je dirais que ce sont de très bons politiciens, ceux qui peuvent avoir l'ascendant Verseau. Alors, c'est donc une vie un peu plus consacrée à l'univers public qui est réservé à ces gens-là qui ont un ascendant Verseau. Pour ce qui est des poissons, on a définitivement un signe assez intéressant pour ce qui est de la dynamique ou plus empathique, plein de compassion, artistique et surtout très spirituel. Quelqu'un qui naît avec cette approche de la vie, d'être beaucoup plus axé sur un contact direct avec l'invisible, avec sa créativité ou avec le bonheur et le malheur des autres. Le poisson, dans le fond, et sa perception de la vie, il n'existe pas encore. Alors, parce que le signe après le poisson, c'est le bébé. Tu comprends? Le début, la naissance, le début. Alors, le poisson est comme plutôt cette réalité qui n'existe pas encore. Et c'est pour ça que l'autre est plus important que lui. Alors, ça veut donc dire, quand on est poisson, on est heureux de donner et on aime pas recevoir. C'est normal. On peut être de grands créatifs parce qu'on a accès à un univers complètement éclaté qui est l'imaginaire. Et on est véritablement en contact avec l'invisible. C'est donc tout à fait naturel de recevoir des messages de nos parents défunts, par exemple. Ah. Alors, oui, c'est vraiment particulier d'être poisson. Mais quand c'est à l'ascendant, c'est plutôt un, il paraît qu'on a l'air de ça. On a l'air quelqu'un de très généreux. On est dans une vie où il faut donner ce que recevoir, même si ce n'est pas notre position de confort. Alors, c'est un petit peu cette réalité. Puis je donne souvent l'exemple, j'ai un de mes bons amis qui est né ascendant poisson, ce qui arrive, c'est que sa vie, il la consacre aux autres. Et si lui, il avait peut-être besoin d'un petit peu plus d'attention pour lui, et il est constamment en train d'offrir toute son énergie pour les autres. Il faut qu'il apprenne à s'adapter dans cette réalité.
Très alors, intéressant, voilà. Alexandre. On a un commentaire sur notre Facebook qui dit oui. « Je suis cancer, ascendant cancer. » Et oui, c'est tout à fait moi. Est-ce que ça apporte une difficulté supplémentaire quand on est le même signe et le même ascendant? Y a-t-il quelque chose de...
Non, pas nécessairement. Okay. Ça donne... Il faut interpréter chaque carte du ciel de façon quand même assez unique. Ça va de soi, mais ça vient chercher peut-être une dimension plus profonde du cancer à ce moment-là. Ça ne veut pas, je veux dire, c'est tout à fait naturel qu'un cancer vive dans un concept familial. Avec l'ascendant, on vient peut-être un peu plus confirmer cette réalité. Il peut tout de même être bien dans sa peau, dans cette énergie-là.
Oui. Et comment on peut faire pour utiliser toutes les connaissances que tu viens de nous donner ce matin, mettre ça en pratique, autant notre signe que notre ascendant, peut-être pour mieux nous comprendre puis mieux comprendre les autres? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Bien, le signe, comme je disais, c'est notre cœur. C'est lui qu'il faut écouter. L'ascendant, c'est la vie qui nous est proposée. On n'a pas le choix de l'accepter. Il faut juste apprendre à s'adapter avec cette réalité-là. T'sais, donc, comme je disais tantôt, naître avec un ascendant poisson nous oblige à être plus au service des autres. Mais si on est, par exemple, lion, et où il faut être le centre de toute l'attention, c'est « je me démarque », ça devient un peu difficile. Alors moi, je dirais, soyez peut-être quelqu'un qui va aller prendre position dans les causes sociales, tu sais, d'aller se battre pour obtenir, tu sais, je donne un exemple, plus de denrées alimentaires dans les banques alimentaires qui sont vides. Mmh. Et on devient un héros du, tu sais, des causes perdues finalement. Et ça, ben, c'est tout à fait à l'honneur du lion ascendant poisson, par exemple.
OK. Et qu'est-ce que tu aurais à répondre, Alexandre, aux gens qui nous ont écoutés ce matin puis qui ne se sont pas reconnus dans leur ascendant ou dans leur signe, puis peut-être même qu'à la limite, ils se disent « Hey, ça, là, l'astrologie, c'est de la pseudo-science. » Tu sais, les Thomas de ce monde, là, on leur dit quoi, eux autres?
Ben, j'aime bien dire, écoute, quand je fais souvent ce genre de description-là, premièrement, très rares sont ceux qui ne se reconnaissent pas. Ça, c'est... Okay. Passe même. C'est très, très rare. Et ceux qui ne se reconnaissent pas, bien évidemment, chaque carte du ciel étant unique. Parfois, comme on dit, l'exception fait la règle et il y a des petits détails qui nous amènent à aller pousser l'interprétation dans une direction différente que le signe en tant que tel ou encore l'ascendant nous apporte peut-être un petit peu plus une direction autre que celle écrit. Bref, il faut quand même approfondir et interpréter tout ça, là.
OK. Bien, merci, Alexandre, parce qu'aujourd'hui, tu nous as encore appris à découvrir un petit peu plus quelques secrets de l'astrologie et de nous. Puis, à la limite, j'ai envie de nous dire aux sceptiques de ce monde que, bien, s'ils ne représentent pas leur ascendant ou s'ils ne représentent pas leur qui suivent, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas sur leur X. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, tout à fait, et ça, c'est très possible. Mais curieusement, j'ai quand même une vingtaine d'années d'expérience en consultation, et c'est tout de même assez rare de ne pas être sur notre X ou d'y être loin, en fait.
C'est parce que c'est pas les sceptiques qui vont te voir, Alexandre, probablement. Hein? Mais dans le fond, je les inviterais, moi, ces gens-là, à aller te consulter. Peut-être qu'ils resteraient agréablement surpris. Puis s'il y en a des sceptiques qui le font, là, puis que ça leur tente de venir nous en parler à l'émission, moi, je suis prenante.
Ça va me faire énormément plaisir.
Ça serait juste amusant. Puis pour les autres qui veulent en découvrir encore plus des secrets sur l'astrologie, qui veulent en apprendre davantage, Alexandre Aubry offre différentes formations. Hein?
Mm-hmm, tout à fait.
Pour s'inscrire, pour découvrir c'est quoi que tu offres, où on va?
Bien, sur mon site Internet, tout simplement, alexandreaubry.ca.
Et voilà. Merci, mon cher. On se retrouve dans une autre chronique éventuellement. Je me souviens plus de la tête par Carl, mais tu vas faire quelques apparitions pendant l'année ici et là. Et c'est très apprécié. Je te souhaite un magnifique dimanche.
Merci, toi aussi. Bonne émission et une belle semaine à tous tes auditeurs.
Merci, Alexandre. Bye-bye. Bye-bye. Après la pause, on va y aller avec... Ah oui, l'importance de la stérilisation. Donc, restez avec nous. On va parler de ça avec le mouvement des chats errants que j'ai rencontré au bazar de Lévis en fin de semaine dernière. Moi, je vous dis, on trouve toutes sortes d'affaires à ce bazar de Lévis-là. Hein? On fait des rencontres, on découvre des objets qu'on aime, on rachète ça. Bref, j'espère que vous avez réservé vos dates hein, parce que ça revient au mois d'avril prochain. Ouais, regardez ça, bazar de Lévis sur Facebook.
18 ans et plus. Sexualité. Non! Juste pas pour les doux.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission Vent de fraîcheur.
Marcus et Alex, les deux snooze.
De quelle province ou territoire la ville de Toronto-Est est la capitale?
Parce que c'est Toronto et ce que tu veux dire, c'est « est ».
Mais non, c'est Toronto-Est! je répète la question pour de vrai parce que là, je voulais faire un piège parce que si je voulais que tu réussisses pas. De quelle...
Ah oh, oui, alors, il y a Toronto-Est! Ah oui!
Ha 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 ha! Alors, on va dire. Il y a trois rivières. Toronto Est.
Les deux snooze.
Lundi et jeudi.
CJMD 96-99.
Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Aujourd'hui, on reçoit par téléphone notre prochaine invitée. Il s'agit de André Junot du mouvement Chat errant. Bonjour André.
Bonjour.
Je voulais vérifier si on vous entendait bien et c'est le cas. Alors, on peut poursuivre. André, j'ai rencontré Anne lors du bazar de Lévis en fin de semaine dernière. Je pensais pas vous inviter si rapidement que ça, mais une place s'est libérée. Et ça a bien à donner. Vous étiez disponible. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation-là pour qu'on puisse.
Ça fait plaisir. Ouais.
Pour qu'on puisse parler, entre autres, de l'importance de la stérilisation chez nos petits animaux à quatre pattes, en particulier les chats errants. Les chats, plutôt.
Oui, bien, les chats deviennent errants pour de multiples raisons. Parfois, ils sont abandonnés parce que ils sont pas stérilisés, ça coûte cher, ou encore c'est les propriétaires qui veulent pas de mâles non castrés qui laissent des odeurs pas agréables derrière eux. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui font que la croissance animalière, surtout chez les chats, est liée à la non-stérilisation. Il y a pas d'autre solution à la base, là, quand même qu'on traiterait les symptômes, puis l'errance, c'est un symptôme, c'est une conséquence. On est plusieurs refuges à Québec, puis au Québec, essayer de donner un coup de pouce là-dessus, mais le fond du problème n'est pas réglé. Il faut les empêcher de se multiplier. C'est mathématique, là, à un moment donné, tu sais.
Ouais. Okay, toi, tu es catégorique, André. Faut stériliser parce qu'il faut stopper l'hémorragie.
Absolument, absolument, parce que ça donne lieu à des détresses animalières, vraiment, là. Les animaux souffrent comme nous, là, hein. Moi, personnellement, là, je m'insure sur ce que certains appellent, là, la supériorité humaine sur la race animale. Ben, on a juste à ouvrir la TV pour voir qu'est-ce que ça donne, hein.
Hop-a-l'aille!
Oui, voilà.
J'en ai un jeu!
Un zéro pour la madame.
Mais je m'attendais pas à celle-là, André.
C'est assez virulente quand on m'attaque à ce niveau-là. Là. C'est,
OK.
C'est sûr que moi, je suis retraitée, je m'occupe de chats errants. Ça fait pas très glamour, mais je me dis, tout ce qu'ils ont, ces animaux-là, c'est leur vie. Ils n'ont pas d'autre chose. Ils possèdent pas autre chose que leur vie.
Mais pourquoi?
Alors, la magane, tu sais, c'est...
Pourquoi t'intéresser aux chats errants? Parce qu'il y a un paquet d'autres affaires que t'aurais pu t'intéresser, là. T'aurais pu t'intéresser davantage à la race humaine, comme tu disais tout à l'heure.
Je l'ai fait pendant 30 ans.
OK.
Avec des réfugiés politiques, oui.
OK.
Et les histoires que j'ai entendues, ça me donne encore plus envie de m'occuper d'animaux, pas à cause des réfugiés, mais à cause de ce qu'ils ont vécu dans leur pays, par exemple.
OK. Les animaux parlent moins, eux autres aussi, hein?
Ils parlent moins, effectivement.
OK. Donc, ces animaux-là, là, c'est vraiment à un stade où il y a une problématique d'hygiène publique ou si c'est exagéré de dire ça?
Bien, c'est peut-être pas encore tout à fait le cas de façon globale, mais dans certains quartiers, oui, parce qu'il y a plusieurs chats errants. Et bien, c'est sûr que... ils font des dégâts, ils laissent des odeurs, ils laissent des petites cartes de visite. Mais pourquoi payer pour les envoyer à la SPA plutôt que de payer pour les faire stériliser? C'est très cher. Il faut quand même là être conscient que nous autres, un chat qu'on sort de la rue, là, s'il est en bonne forme, là, une femelle, on s'en claire pas en bas de 500 $ là, pour la faire vermifuger. Stériliser, vacciner, micro-pucer, etc., etc. Là. C'est pas tous les gens qui ont les moyens de payer des sommes comme ça, là, tu sais. Mais pourquoi l'État ou les municipalités investissent pas plutôt sur des stérilisations gratuites? C'est comme si la main gauche sait pas qu'est-ce que la main droite dépense, là. Ben, ça coûte cher, la SPA, pour ramasser tous ces animaux-là. Puis, eux autres aussi, ils en vivent de la détresse, les employés, là, d'avoir des multitudes d'animaux abandonnés. Ça n'a pas d'allure.
Oui, mais je peux comprendre qu'on peut demander l'aide de l'État, mais l'État peut pas tout régler non plus, là.
Pas tout. Mais la stérilisation, par exemple, c'est comme la seule solution pour éviter de payer des coûts excessifs pour ramasser les animaux non stérilisés.
Donc, ça prendrait une espèce de carte d'assurance maladie pour animaux.
J'irais peut-être pas jusque-là, mais pas loin non plus, là.
Ah oui? Vous iriez jusqu'où? Vous voyez ça comment?
J'irais jusqu'à ce que les coûts des soins vétérinaires soient absorbés en partie par les municipalités, surtout les municipalités qui...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Qui payent, comme je disais, là, des services animaliers. Puis également, peut-être par l'État aussi, pour diminuer les coûts.
OK. Qu'ils fassent un peu des prix.
C'est pas à la portée de tout le monde, là, tu sais. Quelqu'un peut trouver une petite chatonne, bon, il la prend et tout, ça va bien, jusqu'à ce que la chatte vieillit, elle commence à avoir des chaleurs, là, c'est comme, hop, là, on n'est plus capable, là, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on l'envoie dehors, tu sais. Parce que les coûts sont trop chers. C'est effrayant comment c'est rendu cher, là.
Ben, c'est peut-être cher, mais aussi, il faut sensibiliser peut-être les propriétaires qui veulent des chats.
Ben, exactement, mais en même temps, c'est là, c'est la poule, parce que les propriétaires qui veulent des chats, s'ils n'ont pas les moyens d'assumer tous les coûts reliés aux soins du minou.
Ben prenez-en pas.
Ben, c'est ça. Mais ils vont aller où, ces chats-là, s'ils sont pas stérilisés? Tu sais, c'est vraiment là, c'est la poule, là. Ouais.
On est dans un cul-de-sac, on tourne en rond, là.
Oui, on tourne en rond. Ça fait des années qu'on tourne en rond. Puis ça fait des années qu'au Québec, il y a des refuges qui sont composés de bénévoles qui mettent la main dans leur poche très souvent, je ne suis pas la seule, pour essayer de faire leur part pour soulager la détresse animalière. Mais c'est pas normal, cela, là.
Donc là, tu es en train de nous dire, André, que toi, tu mets la main dans ta poche pour faire vivre le mouvement chat errant?
Ben, pas juste moi. Les bénévoles, ben des fois, là... Écoutez, nos frais administratifs sont de 1,4%.
OK.
Ben, les bénévoles qui amènent les chats chez les vétérinaires ou dans les familles d'accueil, j'en ai jamais vu un en 12 ans qui a demandé des sous pour payer son essence.
Et qui paye les soins médicaux?
Qui ramassent de ces chats-là dont personne ne veut puis qui vont payer tous les frais. Tu sais, la sensibilité à la détresse animalière, là, c'est bien beau comme concept, mais quand t'as devant toi un minou blessé, là, ben là, c'est comme, ça devient réel, là. Ouais.
OK. Mais je vais être un peu méchante, là.
Oh.
Pourquoi ne pas procéder à une euthanasie massive s'il y a tant de chats que ça?
Ben, c'est ce qu'ils vont faire avec les cerfs, hein. À bel oeil, puis attendez, ben, dans 5 ans, on va s'en parler.
Vous n'aimez pas mon idée, si je comprends bien.
Ils vont en euthanasier, mais ceux qui vont rester n'auront pas été stérilisés, donc ils vont se reproduire, donc ça va être le même débat dans 5 ans. Il va y en avoir trop.
Donc, il n'y en a pas de solution, finalement.
Bien, il y a la stérilisation. C'est pas si... Nous autres, on est quand même arrivés, là, en 12 ans, à en sortir 558 de la rue, là, qui ont tous été traiter, stériliser, adopter selon des règles. Enfin, on est très rigoureux dans nos critères là, d'acceptabilité des familles adoptantes. C'est pas des jouets, là. C'est pas des tapis, là. Hein? Faut pas que ça fitte avec la couleur du divan, là. Bon.
Oui, parce qu'il y a des chats qui sont choisis en conséquence de leur couleur, à savoir s'ils fitent avec le décor.
Oui, ça, j'ai déjà entendu.
Mon
ça.
Dieu.
Mon Dieu, comme vous dites.
Oui, oui. Mon Dieu.
Oui, mon Dieu, tout c'est simple, parce qu'on a besoin par les temps qui courent. Mais moi, selon moi, là, s'il y avait des campagnes de stérilisation gratuites pour des chats errants, qui sont des chats communautaires, dans le fond, là, parce que ces chats-là, ils sortent pas de nulle part, ça diminuerait la surpopulation féline, puis en même temps, ça démontrerait aux usagers, aux citoyens québécois, qu'il y a de quoi à faire pour arrêter une fois pour toutes la prolifération là, des petits chats, là, tu sais, ça n'a plus de bon sens. Il y a des propriétaires aussi qui en veulent pas parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Alors, il y a des gens, des fois, qui nous appellent pour nous confier leurs chats parce que ils déménagent, puis ils peuvent pas les amener, puis ils ont bien de la peine, mais ils n'ont pas le choix.
Oui, il y a différents cas. Puis quand les propriétaires n'acceptent pas les animaux, ben effectivement, les gens doivent s'en départir.
Exactement.
Et s'ils veulent s'en départir, d'aller le porter à la Société protectrice des animaux, il y a des fresques.
Ben oui.
Il y a des frais.
La SPA, ils débordent d'animaux, là.
Oui.
D'animaux abandonnés, là. Je sais pas comment ils font. Oui.
Ouais. Fait que là, on tourne, on court après l'œuf ou après la poule, on ne sait plus. Une campagne de stérilisation gratuite, Mouvement Chat Errant pourrait pas prendre ça sur ses épaules et partir ça, ramasser des fonds et le faire. Pourquoi attendre après le gouvernement?
Parce que déjà, vous imaginez-vous comment on a pédaler pour être capable de sortir 558 chats de la rue, de payer tous les frais. C'est énorme, là.
Comment vous vous financez?
On finance avec la vente de calendriers. On vend des calendriers avec 12 photos, donc 12 mois, évidemment. Donc, 12 photos de chats qu'on a adoptés durant l'année et avec leur histoire un peu, là, qui est réelle, qui est pas romancée. On fait des marchés aux puces, comme vous avez pu le constater. On a des dons aussi. On demande une compensation financière aux chats qu'on fait adopter parce qu'on fournit toutes les factures. Alors, les gens voient bien que la contribution qu'on demande est, pour la plupart du temps, inférieure au coût des soins totaux qu'on a payés pour le minou, parce qu'il y en a qui nous arrivent avec un œil en moins ou une oreille en moins, ou c'est pas toujours drôle, là, tu sais. Fait qu'on finit par y arriver, mais je dis, on n'a pas la taille, là, ni les ressources pour entreprendre une campagne de stérilisation. Moi, je trouve que c'est aux municipalités à faire un exercice comptable. Comment ça coûte? Les chats qui sont ramassés par la SPA, le coût d'entretien de ces chats-là, de toutes les bâtisses, des SPA ou autres organismes municipaux, versus ce que ça coûterait pour la stérilisation. Ça devient mathématique à un moment donné. Là, il n'y a pas... Ouais.
Est-ce que vous acceptez les dons du public, André?
Oui.
Le mouvement Chat Errant, je parle bien, là, pas vous personnellement.
Oh non, mon Dieu, non. Puis on émet des reçus d'impôts. Hein. On est quand même très structuré comme organisme. Là. On est enregistré. On a l'autorisation à Revenu Canada d'émettre des reçus d'impôts. On est un OBNL. On a tout ce qu'il faut, là. Ouais.
Donc, vraiment, vous, vos services, c'est de recueillir les chats errants,
oui.
de veiller à les vermifuger, les stériliser, les micropucer.
Les vacciner. Quand ils sont malades,
hein, oui. OK. Et là, à un moment donné, c'est vous qui avez des chats. Vous faites quoi avec ces chats-là par la suite?
On les met en famille d'accueil temporaire. On a quelques familles d'accueil temporaire qui vont prendre le chat jusqu'à ce que le chat soit apte à l'adoption. Et après ça, ben on affiche le chat sur notre site. Et ben il y a des rencontres qui se font avec d'éventuelles familles adoptantes qu'on met en lien avec les familles d'accueil temporaire qui ont la garde du chat parce que c'est elles qui connaissent le mieux le chat. Donc, et on les fait adopter. Et ça libère des familles d'accueil pour en prendre d'autres, parce que les chats, faut quand même... C'est long, le processus, là. Il y a une première vaccination, un mois plus tard, une deuxième vaccination, puis là, faut prendre rendez-vous pour les faire stériliser, les faire micro-pucer. Entre-temps, ils ont été vermifugés, ils ont été traités contre les puces, les mites, les alouettes, bon. C'est un processus qui peut durer un 3 à 4 mois.
Et ce 3 à 4 mois-là... C'est 3 à 4 mois-là, c'est le mouvement qui le prend en charge ou bien c'est les familles d'accueil temporaire?
Les familles d'accueil temporaire hébergent le chat.
OK.
Ils sont présentes dans certains rendez-vous vétérinaires parce que, comme je vous disais précédemment, c'est ces familles-là qui connaissent le mieux le comportement du chat. Mais on paye les frais, là, tu sais. Ouais.
Et
on paye les frais jusqu'à l'adoption, ouais.
Les familles d'accueil temporaire, eux autres, il y en a plusieurs. Vous en manquez, vous n'en avez trop?
On n'en a pas trop, on en manque. La pandémie a fait un gros changement. Là. Ça a été le repli sur soi. La pandémie, on n'avait pas le choix, puis on dirait que ça ne redémarre pas. Là, comme si les gens n'avaient pas vraiment dégelé, là, mais... Ouais. Puis une autre chose aussi, c'est que on peut pas, puis on veut pas non plus, dire combien de temps ça va prendre avant que le chat va être adopté. On le sait pas, tu sais. C'est de trouver la bonne famille. Il y en a que ça va très vite. Cette semaine, on en a fait adopter 2 en l'espace de 24 heures. Mais il y a des chats pour qui ça prend plus de temps.
On les voit où, les chats qui sont à adopter?
Ah, dans le site de Mouvement Chat Errant, là.
Sur Facebook.
Je pense qu'il n'y en a plus, là, parce que, comme je vous dis, là, cette semaine, là, ça a été une grosse semaine. Puis la semaine prochaine, on en a 2 autres aussi qui vont être adoptés. Ouais.
OK. Et vous desservez principalement les chats, les familles d'accueil, dans quel endroit au Québec?
Surtout dans la ville de Québec. Mais il y a des chats pour lesquels on a eu des demandes de Portneuf, de Beaupré. Quand on a les ressources pour les prendre en charge, on les prend pareil. Là. Ouais.
De quoi d'autre vous auriez besoin là, au mouvement Chat Errant pour qu'on puisse vous aider à faire une différence auprès de ces animaux-là et peut-être même de contribuer à stopper l'hémorragie?
Mon Dieu, je dirais quasiment d'un miracle parce qu'on est intervenu politiquement... Beaucoup, depuis 12 ans. On a assisté à des conseils de ville, on a fait des entrevues à la radio, à la télé, dans les journaux. Il n'y a rien qui bouge.
Il n'y a rien qui bouge. Si vous aviez plus de familles d'accueil, si vous aviez plus de familles qui adoptent ces chats, est-ce que le mouvement Chat Errant aurait une capacité à en prendre plus que 558?
Oui, définitivement. Mais le manque de ressources humaines, là, c'est un peu comme partout, hein. Ouais.
OK, fait que le manque de main-d'œuvre également pour s'occuper des chats,
ben,
c'est pas là.
Ouais, ouais.
Ou pour s'en occuper de façon adéquate selon la description que vous nous en avez fait aujourd'hui.
Ah oui, parce que les familles d'accueil qu'on prend sont dûment évaluées, là. C'est pas n'importe qui peut dire « Ah ben moi, je vais le prendre, le minou. » Puis non, on a des critères très rigoureux, là. Comme je vous disais, c'est pas des tapis, là. C'est des animaux qui sont vivants, qui ont des fois des traumatismes qui se manifestent, là, par différents comportements. Ça fait souvent des chats qui sont très dépendants affectifs, là. Ouais.
Il y a de l'éducation à faire entre les familles d'accueil temporaires ou les familles d'accueil permanentes avec le chat aussi, là.
Oui.
Ouais. Et ça, c'est Mouvement Chat Errant qui prend ça en charge ou pas?
Ah oui. C'est, on a plusieurs de nos membres qui ont été formés avec éducateurs, qui ont suivi des cours en comportement félin. C'est pas tous les chats qui sont problématiques, là. Mais il y en a certains qui ont très peur, qui vont se cacher pendant peut-être 10 jours, là, parce qu'ils ont vécu des mauvaises expériences avec des humains. Donc, faut que la famille d'accueil comprenne que ce chat-là a été traumatisé, que petit à petit, il va reprendre confiance. Puis, moi-même, j'en ai vécu l'expérience avec des chats errants que j'ai finalement adoptés, là. Mais à un moment donné, ils reprennent confiance, puis ça fait des chats qui sont hyper affectueux parce que le lien de confiance, justement, est créé, puis je pense qu'ils reconnaissent que leur vie est meilleure, là, tu sais.
les chats reconnaissent que leur vie est meilleure. Ben, ils le sentent, ils ont comme un volet émotif, on dirait, les chats. Hein? Les félins sont...
Énormément. Énormément. C'est incroyable. Vous savez, le témoignage qu'on entend de gens pour qui le chat est comme une bouée. Moi, je connais une personne qui a un cancer actuellement. Et son chat, c'est comme... Pour répéter ses propres paroles, son chat, depuis qu'elle est malade, son chat la couve. Il est tout le temps collé contre elle. Ça devient pour elle comme une raison de continuer à se battre pour vaincre son cancer. Le lien qu'elle a développé avec le chat. Ça peut paraître absolument loufoque, mais ça existe, qu'on le croit ou pas, là.
Ouais.
Ça existe. Il y a des relations vraiment particulières qui peuvent s'établir entre un humain et son animal de compagnie.
Moi, j'ai entendu dire que les célibataires, semblerait-il, qu'il y avait des chats. Donc, on remarquait souvent que les gens célibataires ont comme animal de compagnie un chat ou un chien, mais beaucoup, c'était des chats. Probablement à cause de ce côté affectueux-là. Puis je fais peut-être un lien qui n'a aucunement rapport aussi. Hein?
Non, mais ça peut... oui, puis des fois, mais... des personnes plus âgées qui vivent de l'isolement, puis pour qui le chat devient comme une raison de vivre, tu sais.
Oui, mais encore là, quand on y va envers les personnes âgées, envers les personnes qui sont malades, si c'est eux qui deviennent les familles d'accueil pour ces chats-là, on met juste un pansement, là.
Oh non, on les prend pas comme famille d'accueil, là. Moi, je vous parle de mon réseau social.
OK.
Où il y a des gens autour de moi qui tiennent le coup à cause de leur chat. Tu sais, c'est à cause du lien qu'ils ont créé avec leur chat, de la proximité qu'ils ont avec leur chat. Ça fait quelqu'un, tu sais, quand tu rentres à la maison, quelqu'un qui t'accueille, ben, c'est un chat, un chien. C'est mieux que rien, comme on dit, même dans certains cas, c'est vraiment mieux qu'un autre adulte qui soit pas fin avec toi.
Oui, je comprends. Et là, s'il y a des âmes charitables qui nous écoutent présentement et qui auraient le goût, je sais pas moi, de vous donner de l'argent, de devenir famille d'accueil permanente, temporaire, qui auraient le goût de s'impliquer dans une campagne de stérilisation gratuite, qui auraient le goût de faire, peu importe vos idées géniales ou vos idées de fous, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour communiquer avec vous?
En passant par le site de Mouvement Chat Errant, là, c'est certain qu'ils vont pouvoir se manifester. Et quelqu'un leur répondra, ça c'est sûr.
Ouais. Aviez-vous des statistiques, André, sur le nombre de chats errants qu'il peut avoir dans la ville de Québec?
C'est difficile, mais à un moment donné, on parlait de 30 000.
30 000?
Oui.
OK. Mais j'ai pas l'impression, moi, quand je me promène dans Québec, qu'il y a 30 000 chats errants, là.
Non, c'est il y a des quartiers où il y en a vraiment beaucoup, d'autres où on n'en voit pas. Mais ces chiffres-là, bon, moi, comme on dit, là, je répète, ça n'a jamais été validé. En fait, on n'a jamais su combien et pour cause, parce que c'est pas évident, là, à numériser, là, tu sais.
Oui. Ben, on va vous souhaiter bonne chance dans votre quête et... en espérant au minimum que tout ce que votre mouvement Chat Errant fait contribue à améliorer autant la vie des animaux que la vie des gens. Moi, c'est ce que j'entends.
Mais absolument.
Merci de vous impliquer, André, et bonne chance pour la suite. J'espère que vous allez pouvoir réaliser tout ce dont vous rêvez actuellement. Ça serait vraiment génial.
Ben, merci infiniment et je vous souhaite une belle journée.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir. Après la pause... je vais vous parler du style analytique. Et pendant la pause, pourquoi pas en profiter, ma belle gang, pour texter, hein? Parce que c'est samedi le 4 novembre à 20h à la microbrasserie La Baleine Endiablée que Émile Bilodeau se produira. Hein? Et il va vous faire jouer toutes ses meilleures tunes, tous ses grands succès, mais aussi son dernier album « Au bar des espoirs ». Et La Baleine Endiablée, c'est un endroit tout à fait magnifique où vous retrouverez une microbrasserie, où vous retrouverez de la bonne bouffe et où vous pourrez également avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, si vous voulez vos billets puis que vous ne les gagnez pas à l'émission Vente fraîcheur, vous pourrez les acheter sur lepointdevente.com, dis-je bien, et vous pourrez également acheter et réserver votre nuitée à la baleine endiablée.com. Donc, autrement, aujourd'hui, là, d'ici la fin de l'émission, je fais tirer deux paires de billets. Hein, vous pouvez donc en gagner une seule des deux pour le spectacle de Émile Bilodeau qui a lieu, je répète, le 4 novembre. Donc, c'est très, très bientôt. Il faut être disponible pour participer. Je vous dis ça de même, à moins que vous connaissiez quelqu'un qui prendrait la paire de billets. Sinon, je préfère faire des vrais, de vrais gagnants, des gens qui vont y aller. Vous me textez le mot « baleine » ainsi que votre nom complet au 418-903-5969. Il y aura deux gagnants dans l'émission. Et admettons que vous voulez tenter encore plus votre chance, je vous dis ça comme ça. Vous pouvez aller sur la page Facebook de l'émission Vente fraîcheur. Il y a aussi une paire de billets à gagner via ce média-là. Merci. On se revoit après la pause.
96.
Fontanier et immeubles, c'est...
Talk, rock et hip-hop.
On est de retour à l'émission Vente fraîcheur et là, je vais vous parler, on va explorer ensemble le style analytique. Ceux qui ne me connaissent pas, je pense que j'ai oublié de me présenter en début d'émission. Je suis Manon Poulain, experte en reconstruction de l'âme. Moi, j'aide principalement, dis-je bien, les femmes soumises à s'affirmer sans culpabilité. À s'affirmer fermement, j'oserais même dire, sans culpabilité. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente, je suis ravie de plonger avec vous autres dans le monde du style analytique au cours des prochaines minutes. Et je veux juste vous dire un petit peu, avant de vous parler de ça, d'où ça vient pour moi tout ça. Parce que les gens, je pense pas tout le temps de le dire, un petit peu donner une historique. Et les gens au style analytique, ils aiment ça un peu, connaître les historiques. D'où on part, qu'est-ce qu'on est, où on s'en va avec ça. Et donc, je vais juste vous partager mes connaissances aujourd'hui que j'ai acquises tout au long de mon parcours de vie, j'ai envie de dire, mais également au cours de autant de ma vie personnelle que professionnelle. Donc, vous savez, moi, j'ai déjà travaillé au gouvernement du Québec et c'est là, d'ailleurs, que j'ai fait mes premiers apprentissages et que j'ai été captivée par les quatre styles de communication que je vous parle depuis quelques semaines déjà et dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ensuite de ça, bien, quand j'ai fait de l'université, j'ai étudié en gestion des organisations et là aussi, ils nous ont amené ces quatre styles-là. Écoutez, moi, la fille qui aimait déjà les styles, mon amour fut comblé, hein? Donc, j'ai continué, j'ai approfondi mes connaissances. Mais mine de rien, tout ça, ça fait que ça fait des années et des années et des années que j'expérimente les styles, les quatre différents styles, que je travaille avec eux et que je m'amuse avec ça. J'ai tendance à, même dans mes coachings, tu sais, je vais vous en parler, parce que c'est un défi, la communication, pour beaucoup de gens, de s'affirmer. Que vous soyez un homme ou une femme, ça s'applique à vous. Donc, je voulais juste vous faire un espèce de petit contexte. Là. Tu sais, la madame, elle ne parle pas à travers de son chapeau, finalement. Fait qu'aujourd'hui, elle va vous parler, la madame, du style analytique. Mais je veux, avant tout, avant qu'on commence, vraiment à parler du style analytique, de ceux qui mettent c'est incarné en eux. Là. On a tous les styles en nous en même temps, comme je vous ai déjà dit. Je veux juste vous rappeler que c'est vraiment important, la communication. C'est dans toutes nos interactions quotidiennes. Fait que c'est vraiment essentiel, en tout cas à mes yeux, à moi, de comprendre les différents styles de communication. Ceci étant dit, moi, je travaille avec ceux appris dans le temps et qui viennent de Solange Cormier. Mais il y en a plein, plein d'autres. Moi, ceux-là, je trouve qu'ils sont simple, il y en a seulement quatre. Ça s'approche beaucoup de mon chiffre magique de trois. Donc, c'est facile. Mais encore là, il y a tout plein de nuances. Hein? Oui, on est un style plus que les trois autres, mais en même temps, on a des quatre styles en nous. Et on en a un qui est vraiment plus notre opposé. Donc, je vous ai parlé dans une chronique précédente de comment faire pour identifier vos styles. Vous pourrez aller réécouter les podcasts. Hein? Vous faites une recherche podcast, vente fraîcheur, communication ou style de communication et vous allez trouver. Sinon, vous m'envoyez un petit message, ça va me faire plaisir de vous aligner, de vous transmettre le tout. Alors, les caractéristiques du style de communication aimable, je dirais d'abord qu'il faut se rappeler que le style aimable, il y a vraiment un faible degré de dominance et il y a vraiment peu de réactivité émotive, celui-là. L'individu au style analytique, il va communiquer vraiment selon un style systématique, logique, Et surtout, comme je vous ai dit tantôt, non émotif. Lui, là, il déteste ça aussi, être éparpillé puis faire du coq à l'âne. Il est très structuré, très, très, très structuré. Et lui, avec lui, il faut être patient et se armer de prudence dans nos interactions, que j'ai envie de dire. L'analytique, lui, on va le percevoir comme un individu qui est hyper sérieux, hyper méticuleux. Un individu qui va être que le style analytique, on va le percevoir également comme quelqu'un d'exigeant. Il va être très pertinent. Il va être objectif. On va avoir confiance en lui. Il est digne de notre confiance. On a le goût d'y faire confiance. Mais sa perlipopette qui est donc froid, distant, impersonnel, ça peut rafraîchir, je vais dire ça comme ça, certains autres styles. Entre autres, les aimables peuvent avoir bien de la misère avec ça, parce que les aimables aiment beaucoup parler de leurs émotions, hein, vous vous rappelez. Donc, les individus qui ont le style analytique, eux autres, sont vraiment davantage orientés, vous aurez compris, hein, vers la rationalité, la logique, la précision, la véracité des faits. Il a besoin d'avoir des informations qui sont vraies. Il va préférer les données qui sont quantitatives, qui sont quantifiées. Il va préférer, monsieur statistique, là, c'est tout à fait lui, il va préférer vraiment des faits concrets dans ses communications également. Il va être une personne qui est très rigoureuse. Il va rechercher, je suis en train de perdre la voix, ça ne va pas bien, hein? Il va rechercher des informations détaillées, puis il va s'efforcer de les présenter avec des arguments, mais encore là, structurés logiquement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il va avoir une idée principale, il va avoir des idées secondaires, il va avoir des sous-idées, puis il va peut-être même aller jusqu'aux notes de page là, dans un document. Là. Fait que quand il parle, on dirait la dernière fois qu'il nous parle comme ça aussi. Vous voyez le style. Là, ça peut être rigolo pour certains également d'avoir ce style de gens, de personnes-là, de personnalités-là devant nous. Quoi d'autre que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que c'était un individu qui préfère les communications vraiment qui ne sont pas superficielles. Oubliez les approches superficielles, les approches émotives. Il ne veut rien savoir de ça. L'individu analytique, de type analytique, lorsqu'il s'exprime, ils vont accorder une grande importance à la maîtrise des sujets. Okay? Ces interventions vont majoritairement être longues. Il va introduire des pauses de réflexion. Il va, si jamais il est interrompu, c'est pas facile de parler comme un analytique, moi j'y arrive pas, être 100% analytique, je suis incapable. Mais c'est pas grave, je m'amuse avec ça en même temps, puis je vous transmets ça, puis vous faites bien ce que vous voulez avec ça, hein, aussi. Le style analytique, là, il va, si tu l'interromps, il va reprendre son argumentaire là où il l'a laissé. Son langage, il va être riche, il va être formel, il va être précis. Des fois, tu as l'impression qu'il vient comme un peu d'une autre planète, là. L'individu au style analytique aussi, son débit verbal, il est plutôt modéré. L'articulation est claire. J'oserais même dire très, très claire. Son rythme va être égal, son ton de voix va très, très peu varier. On a l'impression que ces gens-là parlent toujours sur le même ton. Mais rappelez-vous, les émotions, puis eux autres, c'est pas ça. Puis souvent, c'est quand on vient émotif, quand on vient stressé, que notre voix change, puis qu'on a différentes tonalités. Hein? Donc, vous savez, il y a quand même des avantages à communiquer avec un style analytique. Puis ça représente aussi des défis d'avoir un style analytique. Le style analytique, lui, comment je vous dirais ça? Il aime ça. Il va être très, très bon dans tout ce qui est prise de décision réfléchie. Il fait vraiment une analyse approfondie des problèmes. Il a une grande crédibilité dans leur expertise, dans le domaine dans lequel ils œuvrent, dans lequel ils travaillent, dans lequel ils s'impliquent. C'est des références, là. Vraiment, les personnes de style analytique vont être des cadres de référence historiques même. Fait que si tu veux savoir ce qui s'est passé il y a 100 ans, même si la personne n'était pas là à ce moment-là, il y a de fortes chances qu'elle connaisse l'historique de la business, l'historique familial, l'historique de leur amitié. Vraiment, ils se rappellent comme d'à peu près tout, mais avec des faits. hein, bien important, avoir des faits. Le style analytique également, dans les défis, il va nous... On va avoir l'impression des fois, lui, qui fait de la suranalyse, oui. Puis il va avoir tendance, selon d'autres styles, à s'isoler. Justement parce qu'il préfère les données, ben il va avoir des communications plus froides, plus détachées. Fait que lui, les rassemblements sociaux, là, il n'en a presque rien à cirer. Quand il est sous pression, les personnes de style analytique, eux, peuvent devenir vraiment très, très, très critiques, voire même intransigeantes. Ces personnes-là, ils vont avoir encore un contrôle plus élevé de leurs émotions, mais en revanche, ils vont être encore moins indécis. Ils vont amplifier aussi le fait qu'ils ne décideront pas, qu'ils ne prendront pas de décision. Ils vont être vraiment inflexibles et ça peut faire en sorte que, bien, malheureusement, ça va causer des conflits avec les autres styles de communication, avec les personnes qui ont d'autres styles de communication. Et ça va faire en sorte également que l'analytique, il va peut-être garder le silence quand il va avoir un conflit. Il ne va pas prendre position non plus. Ou bien, à l'inverse, il peut peut-être tellement s'accrocher aux tout petits détails fins, minutieux, mais il ne prendra pas plus de décisions. Fait que soit qu'il se ferme la bouche, qu'il devienne totalement silencieux, ou bien qu'il soit tellement pointilleux que ça aussi, ça va vous agacer. Dans les deux cas, là, vous n'aimerez pas ça, je vous le dis tout de suite. Devant une interaction de style aimable, l'analytique, lui, il va chercher à comprendre vraiment c'est quoi la logique des propos que l'aimable veut apporter. Puis il ne comprendra surtout pas la personne de style aimable, pourquoi qu'elle parle tout le temps de sentiments. Mais pourquoi faire qu'elle donne des exemples personnels? On s'en sac de ça. Lui, il ne veut rien savoir de ça. Ça lui prend des faits tangibles, n'oubliez pas. Devant une personne qui a le style plutôt directif, le style analytique, lui, là, il va s'inquiéter du manque de précision, du manque de rigueur. Il ne va pas comprendre pourquoi le directif, il propose des actions tout de suite, sans avoir réfléchi, sans avoir pris le temps d'analyser toutes les données pour prendre une décision éclairée. Selon lui, là, ça n'a pas de sens que le directif agisse comme ça. Et son style analytique, son style inverse à l'analytique, c'est vraiment l'expressif. Donc, l'expressif et l'analytique, ils ont deux styles totalement opposés. Hein? Fait qu'eux autres, là, quand ils ont à se parler, là, leurs interventions, là, les deux se trouvent impertinents. Je vais vous le dire tout de suite. Là, l'analytique trouve impertinent l'expressif et l'expressif trouve impertinent l'analytique également. Donc, l'analytique, dans ce temps-là, lui, il devient mais totalement confus. Il ne comprend rien. Il veut des faits puis il ne veut pas des opinions. Hein? Et on sait que l'expressif, ben, il est tellement expressif qu'il peut tomber sur une aire de bain des gens, hein, on sait ça. Mais il y a moyen de s'en sortir. Tout d'abord, si on veut communiquer avec une personne qui a le style analytique, il faut éviter certaines affaires. De un, il faut éviter d'être désordonné puis de tenir un discours informel. Il faut également éviter de demander une réponse immédiate. Il y a besoin de réfléchir le style analytique. Il faut également, quand on s'adresse à un style analytique, éviter de le menacer. Éviter d'être dans la séduction ou la manipulation. Il n'aime pas ça. Et une autre chose, c'est un petit bonus, qu'est-ce qu'on doit éviter avec le style analytique? C'est de présenter, comment je dirais ça? De présenter des opinions comme si c'était des faits. Donc, en d'autres mots, là, je vais vous le dire un peu plus cru, là, un témoignage, là, pour lui, c'est pas une preuve. C'est pas un fait. C'est un témoignage, c'est une opinion sur ce qu'il a vécu. Pour lui, ça ne compte pas. Donc, mettez pas l'accent sur des témoignages, ça sert à rien. Mais comment pouvez-vous interagir de manière plus efficace avec les individus au style analytique, me direz-vous, hein? Alors, vous aurez compris que vous devez commencer par établir un cadre clair. Vous devez avoir une structure pour la décision. Vous devez présenter des faits, des données précises, hein, pour appuyer ce que vous avez à dire, là. Hein? Vous devez également montrer, comment je vous dirais ça, montrer votre préférence pour des informations fiable, des références également. Donc, encore là, c'est des faits. Je cherche mes mots, gang. Des informations factuelles. Vous devez fournir des sources fiables, avoir des références. Moi, je vous le dis, là, vérifiez-les avant vos références, parce que l'analytique, lui, il y a de fortes chances qu'il aille les vérifier. Soyez prêts à répondre à des questions détaillées, à être pointus, à justifier vos points de vue, mais avec des arguments vraiment solides. Là. Vraiment, soyez prêts, gang. C'est le mot. J'ai envie de vous dire, c'est le mot d'ordre avec les analytiques. Préparation. Préparez-vous avec ordonné, structuré. Puis vous allez... Et en même temps, soyez concis. Hein? Concis, logique, ça va vous aider. Et l'analytique, vous devez l'encourager à prendre une décision, mais en se fiant aux données, à se fiant aux faits. Sinon, ça va être difficile pour lui, mais en même temps, vous devez lui donner des faits et lui donner des données, des faits qui vont être en mesure de projeter dans le futur, ça va être quoi les bienfaits pour le futur. Parce que si vous l'emmenez juste à aller chercher un historique, à lui parler du présent, mais que vous n'impliquez pas ce que ça va donner plus tard, il n'aimera pas ça. Et il va peut-être faire un petit dodo là-dessus, comme j'aime bien dire. Donc, respecter ces besoins-là de l'analytique, je vous dirais que c'est comme un peu la clé. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je voulais vous parler des mots qu'utilisent parfois les gens qui ont un style plus analytique. Eux autres, ils vont privilégier un langage vraiment plus précis. Ils vont utiliser des termes vraiment pour parler du passé, du présent, du futur, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va vous aider à connecter. Mais ils vont utiliser vraiment les mots comme logique, pertinent, les conséquences. Vous voyez l'affaire, là, hein? On tourne toujours autour des mêmes sujets, tout le temps. Fait que prévoyez-le quand vous avez à vous adresser à ce type d'individu-là, j'ai envie de vous dire. Le style analytique va beaucoup aimer... Hein, tout ce qui est données quantifiées, je vous l'ai dit tantôt, tout ce qui est politique, procédure, les systèmes, l'organisation, la planification, faire des prévisions, tout ce qui est de l'analyse, parler de ça avec quelqu'un qui a un style analytique, là, il va être au septième ciel. Mais attention, ayez du temps aussi, hein, parce que si vous n'avez pas de temps pour expliquer ce que c'était avant, ce que c'est maintenant, puis ce que ça sera dans le futur... Vous ne pouvez pas le bousculer, le style analytique. Hein? Je vous le répète, là, on ne bouscule pas un style analytique. Fait que ce matin, ma belle gang, j'ai exploré avec vous le style analytique de communication qui va se caractériser vraiment par la précision, la rationalité, la recherche de données factuelles. Puis quand on comprend mieux ce style-là, cette personne-là, bien, c'est facile pour nous d'appliquer des trucs et de trouver peut-être des points communs à notre style et le style analytique pour mieux préparer nos interactions avec eux autres et pour mieux communiquer, j'ai envie de dire. Hein? Ben, je vous le répète encore, puis ça sera ma conclusion. La communication, c'est un outil essentiel dans notre vie. Et ça, au quotidien, et j'ai envie de vous dire, on peut pas, c'est impossible de pas communiquer, que ce soit verbal, non-verbal ou avec des mots. C'est impossible de ne pas communiquer. Donc, en comprenant différents styles de communication, bien, c'est vraiment la clé, je vous dirais, pour établir des relations saines, des relations productives, pour mieux s'entendre, pour mieux se comprendre, pour mieux vivre, pour avoir un monde meilleur, ça perd l'hypopète. Donc, moi, je vais vous inviter à rester à l'écoute pour les prochaines capsules que je vais vous faire pour explorer d'autres styles de communication. Il nous en reste deux à voir avec vous. Il nous reste le directif et il nous reste l'expressif. J'étais en train d'oublier. Et j'ai envie de vous dire, merci d'avoir été là aujourd'hui, de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à partager cette belle information-là. Vous savez, nos podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes numériques, que ce soit Apple Podcasts, Google Podcasts, Acast, et j'en passe, et aussi sur le site de CJMD au 969FM.ca. Donc, c'était ma petite exploration du style analytique. Après la pause, nous, on va se retrouver avec Stéphane Boutin. J'ai bien, bien hâte de vous présenter cet entrepreneur aux multiples facettes que j'ai envie de vous dire. Restez là, on vous retrouve après la pause.
Tous les jours, c'est Talk Rock and Hip Hop à CJMD 96.9 Lévis. T'expliquer, Vapking. On le sait, Vapking.
Laurent et les truands.
Oui. Troisième lien, Jean Talon et le mensonge en politique.
Oh, attendez un peu, je pense que le pont de Québec essaie de nous dire quelque chose.
Ne manquez pas Laurent les truands du lundi au jeudi, dès midi.
L'une de nos 18 lunetteries.
CJMD.
Downtown Lévis,
la seule station.
Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis. Talk, rock and hip hop.
Une station pas pour les doux.
The Funky Station, la station du Mont-Fly.
CJMD 96.9 Lévis.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.